Europe 1 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à bord Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, après la violente agression mardi d'une jeune fille de 14 ans devant les grilles de son collège, le ministère de l'Éducation nationale ouvre une enquête administrative en attendant la pression des musulmans durs hein, sur les plus modérés et bien réels. Illustration dans un quartier de la région lyonnaise. Hier, c'est un adolescent de 15 ans qui a été tabassé cette fois à la sortie de son collège à Viry-Châtillon en Essonne. Une ultra-violence dénoncée par le maire de la commune. Ils l'ont massacré, dit-il. Et dès 13h20, décryptage de cette ultra-violence, communautarisme en milieu scolaire. Venez réagir. 01 80 20 39 21. L'actualité de ce vendredi 6 avril, c'est aussi le nombre de cancers de la prostate qui pourrait doubler d'ici 2040, les explications. Et puis après la lourde chute du double vainqueur du Tour de France sur le Tour du Pays Basque, la question de la sécurité des coureurs se pose. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de chutes ? Élément de réponse à la fin de ce journal. 13h03, Géraldine Hamon, la tendance météo.
Nuages au nord, soleil et douceur au sud avec un ressenti estival dans le sud-ouest. On attend par exemple jusqu'à 30 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 13h avec cette agression d'une violence insoutenable. Hier à Viry-Châtillon en Essonne, un collégien de 15 ans a été passé à tabac à la sortie de son établissement scolaire par un groupe de jeunes encagoulés. Il est toujours actuellement entre la vie et la mort. Wilfried De Villers, vous êtes devant ce collège, le collège des Sablons à Viry-Châtillon. Ce matin, l'émotion est encore très forte, hein. Les élèves sont sous le choc.
Oui, des élèves profondément marqués par l'agression de leurs camarades. Surtout que c'est la première fois que de tels événements se déroulent dans ce collège. Maïssa et Sarah sont arrivées en classe avec la boule au ventre ce matin.
Franchement, ça me brise le cœur parce que c'était quelqu'un de bien plutôt. Mes parents s'inquiètent beaucoup et moi aussi, enfin, ce matin, j'avais un peu peur d'aller au collège.
Je me sens un peu triste pour la personne. Moi, j'ai peur parce que ça peut arriver à mes copines. Du coup, j'ai peur, je fais attention à moi.
Une cellule psychologique a été ouverte dans le collège pour accueillir les élèves qu'ils souhaitent. Les parents, eux aussi, sont sous le choc, comme cette maman qui est venue chercher ses deux fils ce midi alors qu'elle les laisse habituellement rentrer seuls.
J'ai vu ça hier soir sur la télé. Et franchement, j'ai passé la nuit blanche. Et je pense pour mes enfants, pour les autres aussi, on n'a pas la confiance.
On ne connaît pas encore ce midi les raisons exactes de cette agression. L'adolescent a été roué de coups hier vers 16h30 dans une allée tout proche de l'établissement, puis laissé pour mort sur le bitume avant l'intervention des pompiers qui l'ont emmené à l'hôpital Necker à Paris. Son pronostic vital est toujours engagé. La police recherche activement 3 ou 4 individus impliqués alors qu'aucune interpellation n'a encore eu lieu. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire.
Wilfried De Villers en direct de Viry-Châtillon en Essonne pour Europe 1. Un nouveau déferlement de violence qui intervient 2 jours après l'agression de la jeune Samara devant son collège de Montpellier. Jean-Baptiste Marty, il y a de nouveaux éléments puisqu'il y a quelques minutes, le procureur vient d'annoncer l'ouverture d'une information judiciaire.
Eh bien oui, Céline, pour tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans, car les 3 agresseurs identifiés ont tous reconnu leur implication. Alors les 3 gardes à vue viennent d'être levés, 2 des agresseurs interpellés ont été remis en liberté. Le dernier mineur suspecté d'avoir porté les coups les plus violents a été placé en détention provisoire. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette agression s'inscrit dans un contexte de cyberharcèlement entre 2 groupes de jeunes, avec la publication de photos dénigrantes sur les réseaux sociaux, détention qui existait depuis plusieurs jours, selon Samara, interrogé par les enquêteurs à l'hôpital. Le procureur qui précise enfin que d'autres agresseurs sont encore en cours d'identification. Une 20aine de jeunes avaient participé à cette violente bagarre.
Les précisions de Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 et toujours à propos de l'agression de Samara. L'enquête administrative a débuté ce matin dans le collège Arthur Rimbaud. Une procédure d'urgence diligentée par la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet. Les fonctionnaires ont désormais 8 jours pour rendre leurs conclusions. Le ministère qui attend des réponses concrètes, tout comme les parents d'élèves, Charles Hullier.
Oui, ces deux inspecteurs généraux sont arrivés ce matin en toute discrétion au collège. Depuis 8 heures, ils auditionnent le corps éducatif et les élèves proches de Samara. Leur but, comprendre ce qu'il s'est passé, mais également déceler d'éventuelles failles au sein du système. Des enquêteurs qui s'appuieront aussi sur l'enquête judiciaire. Ce qu'on sait à l'heure qu'il est, c'est que Fatima, la principale mise en cause, a déjà été exclue 2 fois de l'établissement, dont 1 fois pour un appel au viol sur Samara. Un gros passif, c'est une évidence, mais beaucoup de zones d'ombre également. Ses parents d'élèves espèrent donc des résultats, et vite.
Il faut qu'on sache la vérité déjà. Nous, on s'inquiète. Et pour beaucoup d'enfants, on a peur.
Il faut que ça bouge. Voilà, moi, j'ai ma fille. Déjà, elle a été angoissée avec cette histoire de communautarisme. Il faut faire quelque chose parce que ça commence à bien faire. Plus rien ne va. Mais bon, il faut que l'enquête se fasse.
Une enquête qui va temporairement s'arrêter en fin de journée. Les vacances scolaires débutent ce soir. Le collège va donc fermer. Mais ces auditions se poursuivront dès lundi, au sein cette fois-ci du rectorat de Montpellier.
Charles Lhuillier à Montpellier pour Europe 1. Alors hier, justement, sur Europe 1, la maman de Samara expliquait que l'agresseuse de sa fille avait agi en raison de la tenue vestimentaire et de la pratique de la religion de Samara. Et dans cet Europe 1 13h, eh bien cette question, existe-t-il dans les quartiers une police du vêtement, une pression exercée par des musulmans durs sur les plus modérés à propos de la tenue des femmes, de leur maquillage? Eh bien, élément de réponse avec ce reportage en banlieue lyonnaise du correspondant Europe 1 Jean-Luc Boujon.
Sarah, 15 ans, est scolarisée au lycée Alfred de Musset de Vaux-en-Velin et pour y aller chaque jour, elle tient à se faire toute belle, jeans serrés, petit haut moulant, sans oublier le maquillage assez prononcé, fond de teint et mascara, ce qui ne plaît pas à certaines amies de son âge.
Quand par exemple ils vont voir une fille beaucoup maquillée, s'habiller comme, je sais pas, mettre des trucs courts ou quoi, bah ils vont dire ouais, genre si t'es musulmane, bah t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de t'habiller comme ça, t'as pas le droit de te maquiller comme ça, tu dois être discrète et tout.
La religion ne tolère pas ça, c'est aussi l'argument utilisé pour reprocher à Jana, étudiante de 20 ans, sa tenue, leggings, veste et ongles peints.
Il y a beaucoup de jeunes filles du même âge qui vont avoir tendance à, pour nous remettre dans le droit chemin, à nous dire vaut mieux que tu t'habilles comme ça ou comme ça, peut-être moins me maquiller, pas m'épiler les sourcils. Et c'est vrai que les leggings, ça pouvait potentiellement déplaire. C'est moulant et on voit les formes des femmes.
Des jeunes filles qui ont choisi de ne pas céder à cette pression qui s'exerce parfois jusque dans la famille, mais aussi sur les réseaux sociaux où une conception très rigoriste de l'islam tente à se développer. Vaux-en-Velin, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et dès 13h20, nous décrypterons cette montée du communautarisme, de cette pression d'un islamisme radical dans les quartiers d'un côté, et puis aussi de cette ultra-violence autour de nos écoles de l'autre. Pourquoi n'y a-t-il plus de limites? Comment lutter contre cet ensauvagement? Quelles sanctions? Venez réagir, Europe 1 13h vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Vous écoutez Europe 1 et 13h09.
Et dans quelques instants, on revient jusqu'à 14h, bien sûr, pour vous informer. Alors pourquoi les cancers de la prostate vont-ils exploser dans les 15 prochaines années? Et puis à 2 jours du Paris-Roubaix, comment expliquer toutes ces chutes dans le peloton? Europe 1 vous informe et décrypte l'actualité jusqu'à 14h avec vous.
13h-14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Europe 1 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 13h11, la suite du journal avec vous, Céline Jérôme.
Et dans cette Europe 1 13h, je voulais vous parler de cette étude dévoilée ce matin par la revue scientifique de Lancet. Le nombre de cancers de la prostate pourrait doubler d'ici 2040. Ce cancer, je le rappelle, est le plus courant chez les hommes. Yasmina Katou, vous êtes la spécialiste santé à Europe 1. Alors comment expliquer ces prévisions ?
Eh bien, c'est assez simple. Les cancers de la prostate vont augmenter à cause du vieillissement de la population. Les hommes vivent de plus en plus longtemps, notamment dans les pays pauvres. Les pays en développement sont en train de rattraper leur retard d'espérance de vie par rapport aux pays développés. Mécaniquement donc, le nombre d'hommes touchés par un cancer de la prostate va augmenter parce qu'il faut savoir que cette tumeur se déclare le plus souvent après 50 ans. Et plus l'âge avance, plus la fréquence de ces cancers augmente chez les hommes. Les chercheurs relèvent par ailleurs un problème, il y a peu de marge de manœuvre pour éviter ces cancers, les facteurs de risque étant l'hérédité ou la taille élevée d'un homme, par exemple. Face à ce constat, pour améliorer la survie des malades, les auteurs de l'étude recommandent de faire des diagnostics précoces, notamment dans les pays pauvres, où les cancers sont souvent détectés trop tard pour agir efficacement.
Yasmina Katou pour Europe 1. Allez, 13h12, je voulais aussi revenir à la mi-journée sur cette chute terrible hier dans une descente sur le Tour du Pays Basque. Une dizaine de coureurs touchés, le double vainqueur du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard, est toujours hospitalisé. Alors une énième chute, alors que la saison ne fait que commencer, qui pose la question de la sécurité des coureurs professionnels. Martin Lange, comment expliquer cette nervosité dans les pelotons?
Eh bien Céline, c'est vrai que les catastrophes s'enchaînent ces dernières semaines. Vingegaard et Evenepoel hier, Wout Van Aert la semaine dernière dans les Flandres. D'ailleurs, le Tour du Pays Basque est déjà la quatrième course neutralisée depuis le début de la saison pour cause de chute et surtout de manque d'ambulance pour les coureurs. Hein, on en est là. Alors, à chaque chute, son contexte. Hier, par exemple, le Basque Peyo Bilbao, qui connaît ses routes par cœur, pointait du doigt le revêtement de l'asphalte avec des racines d'arbres. Mais selon lui, les coureurs le savaient et auraient dû adapter leur vitesse. La vitesse, c'est le principal problème, selon Marc Madiot, ancien coureur et patron de l'équipe Groupama FDJ.
Le problème principal en cyclisme aujourd'hui, c'est la vitesse et le matériel mis à disposition des coureurs pour aller de plus en plus vite. On est sur des routes qui sont de plus en plus sécurisées pour rouler moins vite avec tout type de véhicules. Et nous, on arrive avec des bicyclettes qui sont des petites Formule 1. On veut aller de plus en plus vite dans des endroits où on est supposé aller moins vite.
Alors, le peloton va-t-il de plus en plus vite? Oui, sur toutes les courses, quasiment, le record de vitesse moyenne est battu, grâce notamment à un matériel de plus en plus révolutionnaire, des freins à disque qui permettent de freiner de plus en plus tard, mais qui entraînent de gigantesques carambolages. D'autres pointent du doigt les oreillettes qui distrait les coureurs. Alors, quelle solution pour réduire ces vitesses? Réglementer ou aménager? Dimanche, sur Paris-Roubaix, les organisateurs ont installé une chicane à l'entrée de la terrible trouée d'Arambert. Objectif, ralentir les coureurs avec une idée simple. Une chute à 35 km/h fera moins de dégâts qu'une chute à 60.
Les précisions de Martin Lange pour Europe 1. 13h14, comme chaque jour, un point sur les marchés avec vous, Didier Hamot de Boursier.com. Un marché en forte baisse.
Une chute aussi, oui, pour la bourse qui termine en repli, en net repli d'1,3%, 8040 points. Les craintes de voir les banques centrales reporter leur calendrier de baisse de taux d'intérêt font reculer les marchés financiers. Dans le même temps, les cours du pétrole continuent de grimper en raison de la situation internationale. On est à $91 le baril de Brent, au plus haut depuis plus de 6 mois, ce qui fait craindre un redémarrage de l'inflation et donc un décalage du calendrier monétaire des banques centrales. En conséquence, les marchés reculent assez nettement en Europe. Madrid, moins 1,5%, Francfort, moins 1,4%, Bruxelles perd 0,8%, le CAC 40 en baisse d'1,35% exactement, 8040 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de Boursier.com. Allez, comme chaque jour, un point sur la météo avec vous, Géraldine Hamon. Début de week-end, alors c'est... Gris au nord et c'est l'été au sud.
Ah bah oui, avec des températures qui sont en hausse. Météo France prévoit 30 degrés à Pau, 29 à Tarbes, 28 à Bordeaux, 27 à Biarritz, 26 à Montauban, 24 à Niort, 23 à Toulouse et Lyon. Vous l'avez compris, au sud, la journée est très ensoleillée et très douce avec une alternance d'éclaircies aussi du Languedoc-Roussillon au delta du Rhône. Quelques grisailles brumeuses, en revanche, vont tout de même longer la Côte d'Azur et le littoral corse. Au nord maintenant, l'ambiance est moins lumineuse avec un ciel qui reste bien nuageux et légèrement pluvieux en Bretagne, dans les pays de la Loire, dans le centre-val de Loire, le Poitou-Charentes et les Hauts-de-France et l'Île-de-France. À cela s'ajoutent des rafales de vent atteignant les 70 km/h. Les températures sont tout de même douces. Il fera 16 degrés à Boulogne-sur-Mer, 17 à Brest, 18 à Rennes et Cherbourg, 20 à Caen, Metz, Lille et Paris, 22 degrés à Tours. Et demain sera une journée estivale. On sort les chapeaux, la crème bronzante, voilà, les lunettes de soleil. Le soleil et la chaleur vont s'imposer, sauf malheureusement sur la pointe bretonne où vent et pluie seront toujours au rendez-vous.
Merci Géraldine Hamon, merci beaucoup. Allez, on reste ensemble jusqu'à 14h bien sûr dans quelques instants. Tiens, on va décrypter évidemment l'actualité avec l'avocat Gilles-William Golnadel et l'essayiste Naïma M. Fadel. On va revenir sur ces actes de violence qui s'enchaînent après Montpellier, Viry-Châtillon, deux drames, deux problématiques différentes, mais la même question. Y a-t-il encore des limites dans notre société? Venez réagir, Europe 1 13h vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé, il est 13h16, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Europe 1 13h. Il est 13h18, vous écoutez Europe 1 13h avec Céline Giraud de 13h à 14h. Vous pouvez aussi réagir au 01 80 20 39 21. Céline, on vous retrouve avec vos deux chroniqueurs du jour, l'essayiste Naïma M. Fadel et l'avocat essayiste Gilles-William Golnadel.
Bienvenue à bord. Merci. Bonjour beaucoup. Naïma, Fadel, voilà, première fois pour vous dans oui. Europe 1 13h, avec Gilles-William qui connaît bien la boutique désormais. On va décrypter l'actualité, voilà, compliquée avec cet adolescent de 15 ans hein, qui a donc été passé à tabac hier après-midi en sortant de son collège. On est à Viry-Châtillon, c'est en Essonne, un groupe d'individus encagoulés. Alors l'adolescent est toujours, je le rappelle, entre la vie et la mort actuellement. Une enquête est en cours, pas d'interpellation. Comment expliquer un tel déferlement de violence? Je commence avec vous, Naïma M. Fadel. Vous qui connaissez bien, je le rappelle, hein, ces quartiers, vous étiez délégué auprès du préfet. Vous avez notamment fréquenté les quartiers de Mantes-la-Jolie, d'Odoreux. Donc, c'est une problématique que vous maîtrisez.
Oui. Alors, c'est une problématique qui est propre plutôt en Île-de-France et notamment à l'Essonne. C'est là où il y a 80% en fait, des rixes entre bandes et de cette violence entre jeunes. Donc c'est vraiment particulier. C'est vrai que ce qu'il faut aussi dire, et avec honnêteté, c'est que c'est lié aussi au quartier populaire et que souvent elle est liée aussi à des guerres entre quartiers, sous-quartiers même. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, du fait de la politique de la ville qui a été mise en place, que je n'arrête pas de dénoncer, de ces politiques publiques qui ont mis en place cette espèce de zonage, eh bien, on a affaire à des gamins qui se comportent en appartenance de quartier, voire de sous-quartier. Et quand vous rajoutez à ça qu'on a fait, on a mis aussi en place une politique où les établissements sont aussi très localisés, eh bien, on a affaire à ces bandes, ces règlements de compte qui sont parfois en héritage aussi. J'avais fait un webinaire avec le docteur Maurice Berger qui travaille beaucoup sur la violence des jeunes. Il y avait des gendarmes, il y avait des parents d'élèves, etc. Et ce qui revenait souvent, c'est que cette violence des jeunes, elle arrive très tôt, mais que malheureusement, les réponses aujourd'hui ne sont pas adaptées et qu'il y a encore cette pas de vague, ce laxisme.
Gilles-William Gonladel, on n'a pas encore d'éléments sur le point de départ de cette rixe. Il semblerait que ce soit effectivement une rivalité autour d'une discussion qui a été entamée avec une jeune fille qui pourrait être proche des agresseurs. Voilà, en tout cas, ça pose la question de cette violence totalement, pas gratuite, mais sauvage.
J'abonde dans le sens de ce que vient de dire Naïma, mais je serai encore plus sévère. Je veux bien croire que l'Essonne soit encore plus violente qu'ailleurs, mais en vérité, c'est tous les jours maintenant. Nous avons vécu dans une sorte de rêve, et nous nous réveillons dans un cauchemar. On nous a administré des calmants idéologiques pour ne pas voir ce que certains voyaient.
C'est quoi, ces jeunes sont dans un monde parallèle ?
Lorsque Naïma parle de quartier populaire, elle emploie un euphémisme. Ce sont des quartiers islamisés. Et elle décrit bien d'ailleurs le processus un peu, je veux bien croire qu'il y a des phénomènes religieux, mais c'est aussi identitaire. La réalité, elle est là. Et avec une violence déchaînée, et où maintenant, effectivement, ni la police et encore moins la justice, je ne suis pas le plus mal placé pour vous le dire, sont impuissants à supposer même qu'ils veulent faire quelque chose. Donc pardon d'être un tout petit peu sur ce ton. Même pas alarmiste, parce que ça fait combien de temps que je sonne l'alarme, ni désespéré, mais tout de même, c'est une situation, c'est un traumatisme très violent dont nous aurions dû être conscients depuis beaucoup, bien longtemps.
Alors ce matin, Emmanuel Macron était en déplacement dans une école du 9e arrondissement avec Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation. Alors au programme des échanges autour de l'autisme et des actions en faveur de l'éducation nationale, mais il a évidemment réagi à cette nouvelle agression d'un adolescent. Écoutez-le.
Le texte de loi permet d'améliorer les choses puisqu'il va maintenant permettre des sanctions pour éloigner des réseaux sociaux les jeunes ou moins jeunes qui pratiquent ce cyberharcèlement. Donc là, la loi, elle est en train de se déployer. Donc maintenant, c'est une question vraiment d'exécution et c'est une question de responsabilisation des plateformes. Et bien évidemment, des parents. On ne va pas être derrière chaque famille, il faut être réaliste. Par contre, dès qu'il y a un signalement, il faut pouvoir retirer les contenus, protéger nos enfants et écarter des réseaux sociaux, pour une durée courte puis une durée longue s'il récidive, les harceleurs en ligne. Et là, on est en train de mettre en place cette loi. On est intraitable et on sera intraitable. Et on va aussi accroître le système de responsabilisation des plateformes.
Voilà, responsabiliser les plateformes qui gèrent les réseaux sociaux, c'est l'une des solutions proposées par Emmanuel Macron ce matin pour lutter, Naïma Mfadel, contre cette violence désinhibée chez les ados. C'est ce qu'il dit.
C'est comme le désœuvrement des jeunes qui expliquait les émeutes qu'on a eues au mois de juin. Non, il faut arrêter. Il faut à un moment nommer la réalité des choses. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Gilles-William. En fait, la situation qu'on connaît aujourd'hui de communautarisation de ces quartiers, de communautarisation ethnico-culturelle, elle est aussi du fait des politiques publiques qui ont été mises en place, qui ont favorisé et encouragé le séparatisme. On l'a vu avec la politique de la ville dès la fin des années 70 et dès les années 1980, où on a favorisé, on n'a pas eu le souci d'agréger ces quartiers à l'ensemble d'une ville, on n'a pas eu le souci d'assimiler, ce n'est pas un gros mot assimiler, c'est tout simplement à un moment, puis à faire en sorte qu'on devient dans un devenir ensemble. La question des jeunes aujourd'hui, on ne met pas jamais au centre de la question des jeunes aussi la parentalité. Où sont les parents? On n'arrête pas en fait de tourner autour du pot. À un moment, il faut arrêter ces cris d'orfraie quand on parle de la place et du rôle des parents.
Parce que pour vous, il se trompe de combat, Emmanuel Macron, quand il parle de responsabiliser les plateformes, parce que ce sont elles qui seraient responsables en partie.
Parce que si c'était le problème des plateformes, ça veut dire que hors des quartiers, il y aurait les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une problématique liée à la délinquance des jeunes, à la violence des jeunes, qui est liée au quartier. C'est malheureux. Et en fait, on a toujours des réactions en disant qu'il ne faut pas stigmatiser. Mais moi, je trouve que ce n'est pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas tendre la main à ces quartiers en nommant la réalité et en ayant une réponse adaptée et sans langue de bois.
Avant de vous faire réagir, Gilles-William, je vais vous faire écouter le maire justement de Viry-Châtillon, Jean-Claude Villain.
C'est un adolescent de 15 ans qui sortait de son cours de musique. Sur le chemin entre le collège et puis l'immeuble où il habite, il s'est fait agresser par 3 ou 4 autres personnes qui lui ont tapé dessus comme des sauvages, quoi. Ils l'ont massacré. C'est le propre des lâches, c'est le propre des salopards qui sont capables de faire tout et n'importe quoi pour pas grand-chose très souvent. On se rend compte que maintenant, tout est prétexte à violence et surtout à ultra-violence. On n'en est plus à se faire un croche-pied comme quand moi j'étais gamin. On en est à se prendre à 3 ou 4 sur quelqu'un et le tabasser jusqu'à plus soif, quoi. C'est horrible. Malheureusement, c'est presque devenu monnaie courante dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos écoles. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette ultra-violence. C'est-à-dire, c'est... il n'y a plus de mesure.
Voilà, Jean-Claude Villain, le maire de Viry-Châtillon, sur Europe 1 ce matin. On sent, Gilles-William Gonadel, cet élu complètement dépassé, désespéré, désabusé.
Il décrit la réalité telle qu'il la voit. Mais il ne faut pas faire l'économie de l'analyse. Le président de la République, ce qu'il propose, il n'a pas tort. Si on peut... un tout petit peu mettre d'ordre dans les réseaux sociaux, mais en vérité...
Et ça suffira pas.
C'est côté sur jambes de bois. S'il ne soigne pas, s'il ne tente pas de résoudre le problème à la base. Naïma dit que c'est... Elle crimine la politique de la ville. Je ne dis pas qu'elle a tort, mais... Et aussi le problème de l'assimilation. Je ne dis pas non plus qu'elle a tort, mais la réalité, c'est le nombre. C'est une très grande chose que le nombre. Et les gens qui arrivent, ils veulent être là où leurs prédécesseurs de même origine sont. C'est un réflexe tout à fait humain et naturel. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, je comprends.
Ces gens qui, paraît-il, ne veulent pas s'assimiler, mettez-vous à leur place. Vous avez toute une extrême gauche. Quand ils sont arrivés, parce que souvent les parents, je pense aux Algériens, les parents algériens, ils ne mentaient pas mieux que s'assimiler au départ. Vous avez eu toute une extrême gauche qui leur expliquait du matin jusqu'au soir que c'était des victimes, que les Français c'était des sales beaufs aberrés, que c'était pas la peine qu'ils se fatiguent, de toute manière on leur donnera pas un emploi. Vous savez, c'est très confortable de se mettre dans le rôle d'une victime. J'en veux beaucoup plus aux gens qui ont voulu leur donner une identité victimaire de force qu'à eux-mêmes.
On va en continuer à en parler de cette pression islamiste croissante sur les Français musulmans dans les quartiers suite à l'agression de Samara. C'était mardi, ça. Elle a 14 ans et c'était devant son collège à Montpellier cette fois. Vous restez bien avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. On poursuit le décryptage juste après.
Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
À 13h30 sur Europe 1 et avec vous Céline Giraud.
L'école doit rester un sanctuaire face à une forme de violence désinhibée chez nos adolescents, affirme Emmanuel Macron après 2 violentes agressions de collégiens à Montpellier et en banlieue parisienne. Dans l'Essonne, un collégien a été violemment agressé à la sortie des cours. Son pronostic vital est engagé. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et violence en réunion. À Montpellier, les 3 mineurs interpellés après l'agression de Samara mardi, une collégienne donc de 13 ans qui ont été admis avoir porté des coups. Le parquet a requis le placement en détention provisoire du plus âgé d'entre eux, un adolescent de 15 ans. Les 3 mineurs sont en cours de présentation au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire sur mineurs de moins de 15 ans. Les émissions de polluants de l'air et de gaz à effet de serre ont poursuivi leur baisse en Île-de-France entre 2019 et 2021. Selon Air Paris, qui impute cette baisse au remplacement de véhicules diesel anciens, à des déplacements moins nombreux et à une forte baisse du trafic aérien durant la pandémie, de Covid-19. Une magistrate d'Agen déférée en vue de sa mise en examen, notamment pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. En poste à la cour, dans le Lot-et-Garonne, elle est mise en cause pour ses liens supposés avec un membre présumé du banditisme corse. Jonas Vingegaard, le cycliste danois qui a lourdement chuté hier lors de la 4e étape du Tour du Pays Basque, souffre de plusieurs fractures à une clavicule et à plusieurs côtes et d'un pneumothorax. Enfin, le début ce soir de la 28e journée de Ligue 1, Lille-Marseille à 21h.
Europe 1 13h, la suite sur Europe 1 avec vous Céline Giraud et vos deux chroniqueurs du jour, l'essayiste Naïma M. Fadel et l'avocat essayiste Gilles-William Godnatel.
Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir, alors si vous nous rejoignez, évidemment, on continue à parler de ces agressions après Viry-Châtillon, direction Montpellier. C'était mardi, l'agression de Samara, 14 ans, rouée de coups à la sortie de son collège. Ça a beaucoup choqué, évidemment, la France. La jeune fille était victime de harcèlement scolaire depuis de nombreux mois, mais elle était aussi traitée de mécréante, critiquée pour sa tenue parce qu'elle s'habillait à l'occidentale, pour reprendre les termes de sa maman, qu'on va écouter justement. Elle était invitée par Cyril Hanouna hier sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et vous allez l'entendre, elle a tenu à amener des précisions sur la pratique de sa religion.
Je vais mettre juste les choses au clair. Je dénonce l'instrumentalisation de la souffrance de ma fille par l'extrême droite. Nous sommes une famille musulmane. Ma fille est pratiquante et pieuse. Elle observe le jeûne du mois de Ramadan et fait la prière 5 fois par jour. J'incrimine la fille qui a harcelé ma fille, pas une communauté. Il faut bien le préciser. Alors ce n'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion.
Voilà, Siba, la maman de Samara. On la sent obligée presque de se justifier.
Oui, ça m'a même un peu choquée, je vous avoue, quand elle dit... Elle se sent obligée de dire que sa fille est pieuse, qu'elle jeûne le mois du Ramadan, qu'elle fait la prière 5 fois par jour. Enfin, j'ai trouvé que ça dénotait d'un malaise et peut-être aussi d'une pression. Je crois qu'on a la chance de vivre dans un pays qui est sécularisé, un pays où on peut être libre de croire ou de ne pas croire, de vivre ou de ne pas vivre... une pratique religieuse. On peut manger le mois du Ramadan si on l'a envie sans être incriminé et sans être même emprisonné. Mmh. Donc on a cette chance-là et je trouve ça extrêmement triste qu'elle se sente obligée. Mais c'est vrai que de toute façon, on a aujourd'hui une pression sociale qui peut ne pas être violente, mais qui est un regard social extrêmement... difficile parfois sur des jeunes ou même des adultes, oui. Qui n'ont pas cette capacité à réagir et qui peuvent aussi se sentir obligés même de faire semblant et d'acquiescer. Donc la pression religieuse, elle est là, mais elle est là aussi du fait, j'en parlais tout à l'heure, de cet enclavement des quartiers. Vous savez, notre pays se défend d'être communautariste. Oui. Mais il fait tout, en fait, pour favoriser, encourager le communautarisme. À partir du moment où on a mis en place cette politique de la ville que je dénonce, cher Gilles-William, on l'a mise aussi en place en déléguant tous les services publics à la, entre guillemets, communauté.
Oui.
Même associativement. Moi, j'ai eu la chance
donc
de faire du sport. Donc,
on a fait une forme de laisser faire.
Mais parce qu'à un moment, on s'est dit, peut-être qu'en leur déléguant, ça va aller mieux et qu'on va ramener un peu de paix, soi-disant.
Une cogestion, en quelque
une
sorte.
Une cogestion, ouais. Effectivement. Moi, j'ai été déléguée du préfet. On a favorisé l'émergence aussi d'associations de quartier, sportives, centres de loisirs, centres sociaux, etc. Donc, on a créé aussi un millefeuille d'enfermement et de vaste.
Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Est-ce que c'était le bon choix?
Nous, c'était les politiques publiques, les politiques de l'État. Depuis ces 40 dernières années.
Mais pourquoi est-ce que ce choix, de manière globale, a été fait, cette fameuse cogestion?
Je pense que vraiment, la France se défend d'être communautariste, mais en réalité, elle est communautariste. C'est-à-dire que nos gouvernants sont communautaristes. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se sont dit, pour régler les problèmes de ces quartiers, de ces problématiques depuis fin des années 70, je le rappelle, on va déléguer. Et peut-être qu'en leur déléguant, ça se passera mieux. Et on va acheter comme ça une paix sociale. Et c'est ça le drame, parce que moi j'ai eu la chance, dans ma génération, de vivre dans des quartiers où il y avait une vraie mixité sociale et culturelle, et d'avoir des espaces de liberté, notamment avec l'éducation populaire, parce que la gauche, elle n'était pas la gauche d'aujourd'hui, que je regrette, parce que la gauche a été émancipatrice. Et c'est là où la problématique, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut absolument renverser la table,
remettre en cause tout ce qu'on a fait depuis une quarantaine d'années et puis nommer une réalité, comme disait Camus, mal nommer les choses, on rajoute au malheur du monde et apporter de vraies réponses sans avoir en face des cris d'orfraie.
Gilles William, Gonadel, on va revenir sur ce que venait de dire la maman de Samara. On la sent effectivement sous pression. C'est pas un rétropédalage, mais elle tient à apporter des précisions. Elle est sous pression, selon vous?
Bon, d'abord, j'adhère à ce qui vient d'être dit par Naïma. Je pense quand même qu'à l'intérieur, le phénomène du frérisme, les frères musulmans, se sont engouffrés.
C'est l'effet aubaine.
Se sont engouffrés dans la brèche et ont gagné une grande partie de la communauté, je pense. Quand même, le discours de la maman de la petite, qui a été quand même plongée dans le coma, il faut voir l'importance de c'est pas rien. Hein.
Oui.
Il y a quand même un jour 1 et un jour 2. Je veux dire, avant-hier, elle expliquait...
Par le détail, oui.
Elle expliquait vraiment par le menu que sa fille avait été frappée notamment par une jeune fille voilée. Elle, au contraire, elle s'habillait à l'européenne. Elle voulait
il y a un an et demi, il y avait eu un appel au viol sur les réseaux sociaux à l'encontre de cette jeune fille. Et cette agresseuse avait eu 2 jours d'exclusion seulement de son collège.
Que sa môme avait voulu se teindre les cheveux. Enfin, donc, qu'elle était dans une modernité qui ne plaisait pas à la meute qui l'avait frappée. Bon, alors, bien entendu... Quand j'en ai parlé hier sur CNews, par exemple, alors je ne sais pas si je suis d'extrême droite ou pas d'extrême droite, et de vous à moi, ça m'indiffère un peu, l'étiquetage. Mais bien évidemment que j'en ai parlé. Et puis, elle va chez Hanouna, et elle explique, vous l'avez fait entendre, que finalement, attention, sa môme, elle est pieuse.
Elle lit un texte, Gilles William.
Elle lit.
Oui,
vous avez raison.
Texte, effectivement,
elle lit.
C'est un communiqué.
Non, mais c'est très juste. Elle lit un texte dans lequel elle dit bien que sa fille fait les 3 prières par jour. Pardon, mais moi, je ne suis pas du tout dans un jugement sévère par rapport à elle. La peur, c'est une grande chose. Hein. Alors, je ne sais pas si elle a reçu des menaces ou pas des menaces, je ne sais pas si c'est une peur sociale parce que elle a reçu des coups de fil en disant où tu vas, etc. Tu t'es en train de... Je ne sais pas quelle est la forme de pression, mais il est certain qu'il y a une pression qui est passée par là. Parce que le jour 2 est quand même très différent du jour 1. Et encore une fois, je suis bien loin de la juger sévèrement. Parce que nous ne vivons pas la réalité. Comment voulez-vous qu'elle fasse confiance à l'État? Elle voulait que sa fille soit protégée par l'école. Elle s'est retrouvée, la môme s'est retrouvée dehors. Comment voulez-vous qu'elle fasse confiance, ne serait-ce que même aux médias? Une grande partie des médias, je parle aux médias publics, n'a pas voulu parler de cette affaire. Donc moi, je la comprends, cette maman-là, de vouloir se protéger.
On a Juliette qui nous appelle, qui nous écoute dans la région de Bordeaux. Bonjour Juliette.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Vous êtes principale de collège à la retraite. Vous souhaitiez réagir?
Oui, parce que il y a des jours où j'ai vraiment envie de pleurer. Quoi. Je ne reconnais plus l'éducation nationale. Que se passe-t-il? Il n'y a plus de volonté, de sévérité, de règles. Les enfants se tabassent devant le collège et on dit que ce n'est pas la responsabilité du collège. Mais bien sûr que si. Tant que les enfants ne sont pas dans leur transport, ils sont toujours sous la responsabilité du collège. J'ai été principale pendant 15 ans. Je sortais à la sortie. J'avais des surveillants aussi, que l'on appelle maintenant des assistants d'éducation. Ce n'est plus des pions. Enfin, le nom a changé. Mais il en existe toujours. Et ils sortaient jusqu'à... Ils ne quittaient pas le collège tant que tous les enfants n'étaient pas partis. Bien sûr que j'ai eu des bagarres aussi. Vous savez, j'étais principale à l'île de la Réunion. On dit que l'île de la Réunion, c'est l'île de toutes les réunions, de toutes les religions et tout. Mais c'est l'île de tous les enfants qui se bataillent. Je ne sais pas, vous êtes sûrement jeune, mais vous avez vu la guerre des boutons.
Oui.
Ça a existé, ça a toujours existé. Des enfants qui se chamaillent. Mais maintenant, de là à s'insulter et se tuer, quoi, parce qu'on est limite à... Je ne comprends pas.
Comment vous avez raison, Juliette, mais est-ce que l'éducation peut tout solutionner? Il y a aussi une part de responsabilité de la part des parents, il y a un cadre.
Tout à fait, bien sûr. Mais vous savez, moi, j'étais une principale méchante, hein, parce que chez moi, il y avait un règlement d'intérieur qu'on appelle le règlement
sévère,
intérieur.
Vous étiez sévère.
C'était en quelle année,
madame?
En quelle année c'était ?
J'ai arrêté il y a 10 ans. D'accord. Je suis à la retraite depuis 10 ans. Donc,
c'est pas si vieux.
Il y a 10 ans, ça fait 2014. Mmh. Et j'ai commencé en 2004. Mmh. 2020, oui.
Et vous avez vu la situation se dégrader, vous, avant de partir ? À la retraite ?
Non, pas du tout.
Non,
pas
pour vous,
tout.
Ça allait encore il y a 10 ans ?
Pas dans mon collège. Parce que je vous dis, j'avais une règle simple. J'ai fait des conseils de discipline. J'ai mis des élèves dehors, comme tout le monde, hein, bien sûr. Mais il y avait une règle, un règlement intérieur. Je réunissais les parents. Je leur faisais signer ce règlement intérieur. Mmh. La tenue vestimentaire était de rigueur. J'avais même des t-shirts dans mon bureau quand les jeunes filles arrivaient à moitié...
Et pourquoi, selon vous, Juliette, est-ce que les chefs d'établissement aujourd'hui ne sont plus aussi sévères que vous pouviez l'être ?
Parce que les chefs d'établissement ont peur pour leur porte-monnaie et leur grade.
Pourquoi le porte-monnaie ? C'est-à-dire qu'ils ont peur d'être déclassés, d'être retoqués par le rectorat ?
Ils ont des primes, madame. Ils ont des primes, les chefs d'établissement.
C'est-à-dire ?
En fonction du bon fonctionnement de leur établissement, on peut leur octroyer des primes. On peut évidemment les monter d'échelon, bien sûr, c'est bien.
Vous voulez dire s'il n'y a pas de vague et pas d'incident dans l'établissement, on a de meilleures notes ?
Exactement. On a aussi le classement des collèges. Vous avez vu sur les journaux, ça paraît tout le temps, le classement des collèges et des lycées. Ça aussi, c'est important, le classement. Parce que si votre collège est mal classé, ben vous avez les inspecteurs qui descendent et qui viennent vous voir et qui vous disent comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est la faute du chef d'établissement, bien sûr.
Merci Juliette pour ce témoignage. On a bien compris votre... Effectivement, c'est intéressant ce que vous nous dites. En gros, il y a 10 ans, voilà, ça allait encore à peu près. Aujourd'hui, il y a un glissement. Naïma Mfadel, déjà sur la question de la responsabilité de l'établissement. On entend cette dame dire, voilà, ils doivent être effectivement protégés tant qu'ils ne sont pas dans les transports en commun, mais on ne peut pas tout mettre non plus sur les collèges et les établissements scolaires.
On ne peut pas tout mettre sur le collège, mais c'est vrai que les pions, enfin ce qu'on appelait les pions, aujourd'hui effectivement ça s'appelle les assistants
généraux,
éducatifs, doivent être aussi dehors pour voir comment ça se passe à la sortie des enfants. On ne peut pas mettre tout sur le dos des établissements, mais les établissements scolaires doivent être à la hauteur dans leur réponse. Quand vous voyez que cette jeune fille, la harceleuse, quand elle a mis la photo de Samara en appelant au viol, qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a eu 48 heures d'excuses.
C'est vrai que la sanction est très faible par rapport à la gravité.
Donc, vous voyez, c'est ça la difficulté. Il y a eu aussi un autre cas d'un gamin de 12 ans qui a été harcelé et qui s'est suicidé. Comme les gamins qui l'ont harcelé n'avaient que 12 ans, ils n'ont rien eu. Donc, ça pose la question de la place et du rôle des parents. Mm-hmm. Pourquoi aujourd'hui, c'est toujours pareil, quand on parle de la place et du rôle des parents, de l'éducation parentale, de la poursuivre des parents en cas de manquement dans leurs enfants, vous avez des cris d'orfraie. Mm-hmm. Pourquoi le Danemark, pays sociodémocrate, l'a mis en place ? Vous voyez, et chez nous, quand on l'aborde, et moi je l'aborde souvent, je peux vous dire qu'en face, j'ai des creux d'orfraie et je m'en prends plein à la figure.
Et
si
c'est eux aussi qui ont lancé des fameux cours d'empathie qu'on est en train de
faire. Mais c'est
rendre
service. En fait, le problème, c'est que nous, on a une posture en disant on stigmatise. Mais est-ce qu'on peut se dire, mais non, on rend service. Mm-hmm. Peut-être qu'on sauve des gamins, peut-être qu'on rend service à des familles, peut-être qu'on, dans ce cas-là, on va intervenir auprès des familles pour les aider. Pour pouvoir élever aussi leurs gamins. Sauf que nous, on ne veut pas. Et c'est pour ça que j'en veux aussi à la gauche. Parce que c'est souvent la gauche qui a des cris d'orfraie et qui finalement, je trouve qu'elle est dans cette posture de non-assistance à personne en danger.
Naïma Mfadel, Denis William, Gonladen, on reste ensemble. On va en reparler. On va continuer à parler justement de ce problème
là,
de cadre,
parler,
d'autorité.
Là.
Non, pas tout de suite. Dans une poignée de secondes, voilà. Jean-Yves William, vous restez bien avec nous.
Non, pas du tout.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1. A tout de suite.
Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h, avant début d'après-midi.
Europe 1 13h.
Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1 et le débat continue, Céline, avec vos deux chroniqueurs du jour, l'essayiste Naïma Mfadel et Gilles William Goldmadel, l'avocat qui voulait prendre la parole avant la pub.
Et vous, auditeurs d'Europe 1 01 80 20 39 21, vous êtes très nombreux à réagir sur le sujet de la sécurité, de cette ultra-violence, de cette agression aussi de la jeune Samara du côté de Montpellier. On a entendu Juliette, cette professeure à la retraite, qui nous disait, voilà, il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Mais il faut aussi que l'école protège ses élèves, même quand ils sont sur le parvis de l'école avant d'aller dans le bus. Gilles William Goldnadel, alors voilà, on peut taper sur les chefs d'établissement, effectivement, sur l'éducation nationale. Il y a d'ailleurs une enquête administrative en cours. Mais pour vous, il n'y a pas que ça.
Non, mais je n'invalide pas du tout l'excellente intervention de notre auditrice, qui est une ancienne principale, méchante comme elle se décrit.
Autoritaire.
Qui aimait l'autorité, et elle avait bien raison. Mais encore que chez elle, à La Réunion, 10 ans, c'est, je veux dire, ça fait longtemps que ça va mal. C'est pas dans tous les collèges où on a un uniforme. Elle, il y avait un uniforme, vous voyez, à peu près. Mais enfin bon, je n'invalide pas du tout ce qu'elle dit et qui est très intéressant également sur le fait que le pas de vague, c'est intéressant pour le portefeuille du principal parce que sinon, il est dévalorisé. Ce qu'a dit Naïma aussi sur la situation dans les collèges, elle a raison. Mais pardon de ne jamais vouloir perdre de vue l'angle idéologique.
C'est-à-dire
je reproche aux syndicats d'enseignement d'extrême gauche, d'ailleurs, comme le disait très bien Naïma, d'avoir en vérité pollué totalement par leur idéologie l'enseignement. Il n'était pas question de sévir. Il y a encore 10-15 ans, les syndicats poussaient des hauts cris quand ils apercevaient des flics à l'extérieur des collèges. Il y a encore 10 ans, c'est l'avocat qui vous parle, les syndicats d'enseignement expliquaient que se faire traiter de sale juif à l'intérieur de l'école, il ne fallait pas le prendre au pied de la lettre. C'était une expression comme une autre. J'ai entendu ça, moi, dans les prétoires, dans la bouche d'enseignants. Si vous voulez, il faut comprendre dans quel contexte ce sont les mêmes enseignants qui ont laissé tomber Samuel Paty. La réalité, elle est là, et maintenant ils se réveillent. Ils se réveillent tout d'un coup de leur rêve idéologique et ils crient au feu. Mais c'est eux qui ont été les pyromanes. La réalité, elle est là. Je rejoins le discours des Brighelli et d'autres dans la fabrique du crétin qui pointent la responsabilité de l'idéologie d'extrême gauche qui est extrêmement puissante dans l'enseignement, comme elle l'est dans la presse, comme elle l'est dans la justice. La réalité, elle est là.
Allez, 13h50, on va parler d'autres sujets qui font l'actualité aujourd'hui avec ce chiffre catastrophique, on peut le dire. 7%, c'est le niveau des intentions de vote pour la liste Renaissance aux élections européennes chez les moins de 35 ans. C'est le résultat d'un sondage, IFOP fiducial pour le Figaro, LCI et Sud Radio, qui a été réalisé récemment. Alors, effectivement, la tête de liste, c'est donc Valérie Ayer, elle a 37 ans et qui obtiendrait, selon 21% des suffrages, mais dans l'électorat jeune, le camp d'Emmanuel Macron est désormais nettement distancé par le RN.
Gilles William. Oui, écoutez, je ne suis pas un grand spécialiste des questions politiciennes. Je vais me hasarder.
Elle ne rassemble pas.
Oui,
Valérie, on peut
de
le dire.
Vous à moi, sans vouloir être inutilement méchant, elle ne rassemble pas au-delà du clivage des jeunes. Moi, je l'ai entendu encore ce matin sur une radio du service public. Elle n'est pas très entraînante, Madame Ayer, disons-le. Mais si je veux bien me hasarder à une explication un peu sociologique sur l'âge, les jeunes sont davantage attirés, ça c'est un phénomène qui ne date pas d'hier, par une forme de radicalité, qu'elle soit à gauche ou qu'elle soit à droite. Donc, aujourd'hui, Macron, c'est le centre-gauche, c'est pas très excitant pour les jeunes. Cela étant, je ne pratique pas le jeunisme.
Vrai que ce choix interpelle, il interpellait déjà dès sa nomination. Ouais. Valérie Ayer, bonne ou mauvaise pioche pour vous, Naïma Mfadel, pour les européennes?
C'est vrai qu'elle n'est pas très connue. C'est vrai qu'elle n'est pas très connue et puis elle va faire aussi les frais un peu.
Mais vous la trouvez bonne, honnêtement?
Non, enfin, moi, je n'ai pas encore bien
elle
regardé.
Elle n'est pas très à l'aise.
Franchement,
elle
ne semble pas très à l'aise, donc elle ne semble pas très politique. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que par rapport à ces jeunes qui aujourd'hui se détournent d'Emmanuel Macron, moi, je voudrais rappeler jusqu'en 2017, au contraire, Emmanuel Macron était très plébiscité par les jeunes, notamment les jeunes des quartiers, parce qu'il avait parlé aussi entrepreneuriat.
C'était un orateur.
Vraiment, il avait mis au centre aussi de sa politique, en tout cas de son discours, l'entrepreneuriat des jeunes, notamment, rappelez-vous, autour des Uber. Il avait été intervenu sur ça parce que les jeunes avaient tous envie d'être leur propre patron et que le fait d'être, par exemple, Uber, c'était beaucoup plus facile pour eux. Et ça avait beaucoup plu. Aujourd'hui, il a beaucoup déçu parce qu'il y a aussi un déclassement de ces jeunes entrepreneurs et notamment aussi le déclassement des jeunes des classes moyennes. Et c'est souvent des jeunes, ce public-là. Oui. Donc effectivement, je pense qu'il y a un mécontentement et que certainement... ça plaît à plus.
Oui, ouais. Peut-être, mais indépendamment de ça, je ne veux pas être l'avocat de M. Macron, je le plaiderai pas très bien le dossier, mais le pouvoir. En général, écarte quand même, n'est pas très populaire pour les jeunes, et pris de nouveautés, avec un esprit critique très acéré. Donc, ça dépasse le cas Macron. À mon
mais il
avis.
A gardé les seniors, Gilles oui. Williams, c'est ça qui est intéressant.
Voilà. Mais oui, les jeunes,
oui.
il ne les a plus.
Oui, oui.
Un dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, lors d'une conférence organisée le week-end dernier par Mediapart, l'humoriste Mao Drama, chroniqueuse sur France Inter, a suggéré de se battre, hein, entre guillemets, si Marine Le Pen oui. gagne en 2027. Pour vous, Gilles Williams, ce discours n'est hélas pas un incident isolé et s'inscrit dans une tendance de fond.
Mais je suis content que vous évoquiez, parce que j'ai commis un article dans le Figaro sur le sujet, c'est invraisemblable, si vous voulez. Ce qui est d'ailleurs invraisemblable, c'est que l'audiovisuel de service public n'en est pas répondu. Vous avez
il n'y a pas eu de retour.
Vous avez eu un sénateur républicain qui a demandé à la directrice de France Inter de se positionner. Ça montre c'était sur Mediapart. Ça montre de manière extraordinaire l'intolérance d'extrême gauche. Elle a été applaudie quand elle a dit ça, il faut prendre les armes, il faut prendre, moi j'ai pas le courage, mais si vous avez le courage, je vous encourage à prendre les armes. C'est la négation même du scrutin démocratique.
Même
c'est
avec son statut d'humoriste
Non, mais là, elle était très sérieuse. Oui. Ça ne se passait pas dans un studio capitonné à côté de M. Meurice ou de Charline. C'était dans le cadre d'une conférence extrêmement sérieuse dont le thème, c'était comment lutter contre l'extrême droite. Là, il ne faut pas me ressortir l'argument humoriste qu'utilise M. Meurice. Non, et il n'y a pas eu... Non, et ce que je veux dire, c'est... Et ce qui est terrible, il n'y a pas eu une voix qui s'est élevée en disant « Bon, évidemment, on ne serait pas très content, mais c'est la règle démocratique ». On en est là, et je peux vous dire quelque chose, c'est un vrai sujet, parce que la victoire du RN n'est pas une chimère, et on peut compter sur des gens intolérants comme cette dame-là, sur les Antifa, sur les Black Blocs, il pourrait y avoir un vrai problème démocratique.
Naïma Mfadel,
moi je trouve ça extrêmement grave, et je regrette qu'il n'y ait pas eu un tollé général. C'est-à-dire que les réactions, il y a eu peu de réactions, et ça passe crème. Je trouve ça extrêmement grave. Non, mais on est une république, une démocratie, qui a un cadre, etc. Et là, c'est des gifles qui sont une gifle qui est donnée justement à la démocratie et à la république. Mm-hmm. C'est extrêmement grave. On appelle à prendre les armes. Imaginez que si quelqu'un de dit de droite...
Gabriel, Gaspard Proust, tiens.
Gaspard Proust.
Voilà, Gaspard Proust, il est dans un truc, il va dire si jamais... Alors, il est dans un truc sérieux. Ouais. Hein. Si jamais... les insoumis gagnent, et ben là il faut prendre les armes. Mon imagination est impuissante à vous décrire ce que serait la répercussion médiatique d'une telle sortie. Mm-hmm. Là, rien, comme Naïma dit, ça passe crème.
C'est extrêmement grave. Et encore une fois, je suis vraiment déçue qu'il n'y ait pas eu un tollé général et que, voilà, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça passe crème.
Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup.
C'est
passé très vite, 13h57. On doit déjà se dire au revoir. Merci beaucoup, Naïma Mfadel. Vous revenez évidemment très bientôt nous retrouver dans le studio d'Europe 1 13h. Merci, Gilles William Golnadel. Merci Géraldine Hamon. Et à très vite, en tout cas. Lundi, dès 13h et ce soir, 18h, oui. Pierre Devineau, bien sûr. Continuez à vous informer.
C'était Céline Giraud qui revient donc lundi de 13h à 14h sur Europe 1.